Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey.
Itinérance, une déambulation proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Pour parler avec les gens.
Bonjour, bonjour à tous. Nous allons pas très loin, nous allons au prieuré Saint-Nicolas de Campagnac avec Arnaud Lebihan et son projet magnifique, difficile, passionnant, c'est de faire revivre ce prieuré Saint-Nicolas de Campagnac. Donc entre Nîmes et Uzès, mais vous êtes sur le territoire de Nîmes. Hein,
nous dépendons de Nîmes Métropole, nous sommes sur la commune de Sainte-Anastasie.
Alors Arnaud, vous portez ce projet depuis 2020, donc vous avez acheté ce domaine qui était en piteux état ou qui était abandonné, pas tout à fait.
Alors merci de me recevoir aujourd'hui. Effectivement, j'ai une jolie maison à côté du prieuré, je passais devant depuis 25 ans et un jour j'ai découvert que c'était à vendre. Je l'ai visité en 2019 et je me suis mis à rêver. De pouvoir l'acquérir, de le réouvrir, de le faire revivre. Et j'ai acheté en juillet 2020, donc ça va faire bientôt 6 ans.
Alors un rêve qui devient réalité, mais avec beaucoup de soucis, de joie.
Un rêve qui est réalité presque tous les jours et chaque moment de la journée, qui de temps en temps est un petit cauchemar à porter et qui n'est pas si simple que ça, parce que le jeu de l'entrepreneuriat en France ou de l'entretien et de faire revivre le patrimoine n'est pas toujours simple à manœuvrer avec les contraintes administratives, etc. Mais l'enjeu en vaut la chandelle, c'est un joli lieu qui mérite de revivre.
Alors ce prieuré, je pense que tout le monde l'a vu après ce pont Saint-Nicolas, et c'est un lieu pluriel. Vous voulez en faire un lieu pluriel et en ce moment... il y a l'exposition de Marie Moroni, une exposition photographique. C'est peut-être bien l'occasion de venir, mais il y a beaucoup d'expositions. Et j'avoue être un peu, pas perdu, mais ne pas savoir comment présenter ce lieu et votre projet. Vous avez une vie professionnelle et personnelle avant le prieuré de Saint-Nicolas. Et là, vous avez vraiment la volonté d'en faire un lieu pluriel, une maison de famille, un lieu de gastronomie, deux maisons d'hôtes. C'est très lourd, c'est très ambitieux. Dans un site classé, c'est ça qui vous a plu tout de même, c'est ce site classé. Vous êtes un passionné de patrimoine, un passionné d'histoire. On va tout de même un petit peu résumer l'histoire du prieuré, mais... vous étiez avant expert dans le bâtiment, vous avez toujours une sensibilité tout de même sur les vieilles pierres.
Alors oui, j'ai toujours eu une sensibilité pour l'architecture, le patrimoine, la vieille pierre. Surtout avec le Covid, j'ai pris conscience que les choses essentielles, la pierre, étaient quand même... Un axe de futur. Hein. J'ai voulu revenir à l'essentiel. Donc, ma vie précédente, c'est 20 ans dans le bâtiment. La création d'une entreprise de bâtiment spécialisée dans la réparation de sinistres pour des compagnies d'assurance. Lorsqu'il y a un sinistre, on appelle son assurance. Il y a une entreprise agréée qui peut venir. Et c'était moi, en règle générale. Mais j'ai vendu cette entreprise en 2018.
À 38 ans, tournant de vie.
En 2015, pardon. À 38 ans, en 2015. Et j'ai accompagné cette entreprise encore pendant 2 ans. Puis j'ai investi et accompagné quelques startups dans le bâtiment et l'assurance. Et puis le prieuré est arrivé sur ma route, a croisé mon chemin, comme je dirais. Et je me suis mis à rêver de le faire revivre. C'était un moment de ma vie où j'avais peut-être un peu plus de temps et un peu plus de moyens qu'à une époque. Et je pouvais essayer de réaliser mes rêves.
Voilà. Bah écoutez, c'est magnifique. Bravo à vous. Alors, il faut dire que voilà, vous n'êtes pas milliardaire. Hein, vous avez travaillé.
Malheureusement, non. Voilà.
Une vie de travail.
J'ai effectivement gagné de l'argent. J'ai payé mes impôts en France et je réinvestis dans ce lieu pour l'ouvrir au public, pas pour le garder pour ma famille, mais pour l'ouvrir au public, avec la volonté de le transmettre, de faire revivre le lieu sur plein de manières différentes, que ce soit autour de la gastronomie, autour de la culture et de maisons d'hôtes qui permettent de recevoir et de passer un moment sur place.
Alors on va développer chacun de ces thèmes et peut-être faire un rappel que les subventions seraient tout de même bien les bienvenues, hein, parce que c'est très lourd à porter.
C'est vrai que depuis le Covid, le bâtiment coûte plus cher que les travaux dans le bâtiment coûtent plus cher que ce qu'on était habitué à payer avant. Tout coûte plus cher en France qu'avant. La France et l'accompagnement des régions, de l'agglo, des départements n'est pas toujours simple à savoir appréhender. Et donc aujourd'hui, clairement, je suis toujours dans l'attente d'accompagnement, que ce soit la Fondation du patrimoine ou localement, des collectivités territoriales. Donc je porte ce projet seul. Il y a effectivement quand même des acteurs locaux avec le Fonds Tourisme Occitanie qui m'ont accompagné à un moment donné, avec un petit crédit court, voilà, mais sur des projets longs de patrimoine qui devraient être avec des accompagnements sur 15, 20, 30 ans. Voilà.
Pour l'instant,
je suis seul et je remets régulièrement au pot dans ce projet pour maintenir le cap. Alors, nos clients sont fidèles et viennent souvent et nous permettent de tenir la tête haute.
Un peu de Chopin pour voyager, pour imaginer, mais votre projet, Arnaud Le Billan, il est très, très réel. Et avant de parler de... C'est ouvert au public, hein, c'est des entrées libres, mais il y a souvent des privatisations, on en reparlera dans les activités. Je pense qu'il est tout de même bienvenu de parler un petit peu, ce n'est pas une émission historique, mais de l'histoire de ce prieuré Saint-Nicolas, que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est-à-dire, on passe sur le pont Saint-Nicolas, on va à Uzès, mais en fait, on se dit, qu'est-ce qui se passe là ? Alors, l'histoire est très, très longue. Vous m'avez dit qu'à l'origine, il y avait 3500 hectares de propriété, que Saint-Louis l'a vendu contre Aigues-Mortes et la Camargue, donc ça avait tout de même une grande valeur, que l'octroi, le péage royal rapportait beaucoup.
C'est les informations que j'ai.
Voilà.
que j'ai découvert à droite à gauche, oui, que des historiens m'ont transmises.
Vous ne les connaissiez pas quand vous avez eu le coup de foudre ? Vous les avez travaillés peu à peu.
J'étais attiré par le lieu comme n'importe qui passe sur la route en me disant qu'est-ce qu'il y a derrière ces murs, qu'est-ce que c'est beau. Le lieu ne laisse pas insensible, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. J'ai eu la chance un jour de le découvrir et depuis, je l'ai acquis et je le fais revivre. Mais effectivement, c'est un lieu qui marque. Il y a depuis 960 des hommes qui se sont installés là. C'est un site stratégique, hein. C'était la route directe entre la mer et Avignon. C'est un passage qui est entre les gorges du Gardon et la plaine, avec un guet. Donc souvent, au départ, il y a le passage de la rivière avec des chars à bœufs et un octroi qui fonctionnait déjà pas mal. Puis en 1253, la création du pont en pierre qu'on connaît aujourd'hui avec un péage royal.
Vous m'avez dit surtout ne le traversez pas à pied, c'est très dangereux.
Oui, c'est une route départementale aujourd'hui de niveau 1, donc c'est une route grand passage. Le parapet n'est pas aux normes, ouais. Donc on peut... et je déconseille fortement d'aller se mettre pied sur ce pont parce que les gens vont vite, parce qu'il est dangereux. Il vaut mieux le voir en voiture que à pied.
Le parapet du virage est souvent défoncé. Hein, on voit que...
Oui. Les gens conduisent vite sur cette route, malheureusement.
Donc une histoire et un site classé... 4 bâtiments inscrits, donc...
C'est un ensemble de 7 bâtiments, donc 4 inscrits. Nous avons un vieux four à pain, un chai, un pigeonnier qui est magnifique, qui est de l'autre côté de la route, avec un jardin des simples. Et vous avez une église qui est classée en totalité, qui est désacralisée depuis la Révolution française. Vous avez ensuite un ancien bâtiment que nous, on appelle la maison du réfectoire et la maison du cloître. Voilà. Et tout ça, ça fait un ensemble où chaque bâtiment est magnifique, mais les uns avec les autres, leur disposition, l'aspect citadelle au-dessus de la rivière en amont du pont du Gard, en fait un ensemble vraiment extraordinaire, hors du temps, unique.
Et c'est vrai qu'on peut...
Et la Drac Occitanie le considère comme un site majeur du territoire, méconnu.
Alors, on peut y venir prendre un verre. On va parler de la gastronomie, de la restauration. En fait, il y a tout sur le site, hein, parce que nous l'avons dit, il y a beaucoup de journées privatisées.
Nous essayons de faire le maximum de choses sur place avec les contraintes administratives qui nous sont imposées par le plan de prévention des risques d'inondation, etc. Parce qu'effectivement, c'est un sujet. Le but, c'est de rester en sécurité. Mais vous êtes dans une maison privée, chez moi. Je vous reçois dans mes maisons et j'ai le droit de vous servir à déjeuner ou à dîner à partir de mes food bikes qui sont sur nos terrasses en été. En hiver, on est plus sous forme de table d'hôte. Nous avons la chance d'avoir acquis une licence 4 qui nous permet d'ouvrir un bar. Nous avons un ERP 210 personnes, un établissement recevant du public 210 personnes dans l'église. Donc ça en fait un bâtiment magnifique.
Pour des mariages,
etc.
Des
on a 120 places de parking. Le jardin est magnifique.
La piscine.
Alors, c'est pas une piscine, c'est une piscine naturelle ou un bassin d'agrément.
Oui, c'est vrai. Moi, j'ai tout de suite remarqué. Elle est magnifique.
Elle a été réalisée dans des anciens réservoirs d'eau. Et elle est très agréable parce qu'il y a deux bassins. Il y a un bassin qui est un filtre avec des plantes.
Ouais.
Et il y a un bassin qui fait 24,5 mètres par 4,5 mètres, qui en fait une piscine, un bassin de nage très agréable.
Et puis les cascades quand on monte.
Alors les cascades ont deux rôles. Nettoyer la piscine, puisqu'on l'oxygène, la piscine naturelle, sinon les plantes meurent, et l'eau serait stagnante et pas belle. Et puis, c'est un deuxième avantage, c'est que ça masque le bruit de la route. Parce qu'on n'entend pas beaucoup les voitures, on n'entend pas beaucoup les camions, mais on entend bien les motards qui viennent s'entraîner sur cette route, avec des pots non réglementaires. Voilà.
Ouais. Donc, un lieu à découvrir, regarder sur le site, prendre toujours bien les renseignements. Mais j'ai beaucoup aimé le mot que vous avez employé, disant « c'est un village ». Et en fait, vous voulez en faire un lieu...
C'est comme un hameau, un village, effectivement. On veut redonner vie, donc il n'y a pas une activité. Nous, ma femme et moi, quand on l'a acheté, on a essayé de trouver la façon d'en parler le mieux pour que ça soit compréhensible. En fait, on parle de maison de famille et de lieu pluriel. Et quand on parle de maison de famille, c'est-à-dire que c'est chez nous, nous avons... chiner les meubles, on y a mis notre âme.
La décoration est magnifique. C'est même pas une décoration. Je pense que c'est.
Vous n'êtes pas dans un hôtel, vous n'êtes pas dans une place sans âme, vous êtes chez nous, il y a nos livres, nos affaires, nos meubles. On y reçoit pas comme chez nous parce que vous êtes quand même des clients et vous n'êtes pas des invités, enfin vous n'êtes pas des amis, mais on vous reçoit comme des amis, chez nous, avec l'envie de vous faire revenir souvent, pour des manières différentes. On a voulu un lieu pluriel, parce que l'idée, c'est de vous faire revenir souvent pour des choses différentes. Vous pouvez venir goûter notre miel, et si vous l'appréciez, en acheter. On fait l'huile d'olive aussi. Donc ça, ce sont des produits qu'on réalise sur place. On fait aussi des olivades, des tartinables, des tapenades sur place. Vous pouvez les déguster et les acheter. Et puis, on a toute une sélection de produits. On a la gastronomie, où on a notre table d'hôte en hiver, des grands repas aussi, avec le festival Saveurs et Savoirs, avec quand on fait des concerts, on fait des grands repas après, donc des tables partagées. Il y a un aspect lien social aussi qui est important pour nous, dans la culture et la gastronomie. On essaye de prendre des produits locaux, de saison, et de les mettre en avant. On a un chef qui nous accompagne, qui travaille des produits bruts de saison. Puis, en dehors de l'aspect gastronomie, ou de vous recevoir chez nous, il y a un aspect culturel qui est très important avec, avec des expositions galeries.
Sur Radio Alliance Plus, nous avons écouté à nouveau Chopin. Lieux culturels, musique, concerts, spectacles, pas que du classique, tous les genres.
Alors, on a commencé avec du classique. On a mis un peu de musique sud-américaine, des chorales, de l'accordéon, du piano. On a la volonté de faire vivre le lieu de plein de manières différentes tout au long de l'année. Donc parfois ce sont des chorales locales, parfois ce sont des grands artistes internationaux qui se produisent là et qui font des concerts de musique
dans l'église.
Classique. Alors c'est en général dans l'église. On a eu des seuls en scène, on a fait parfois du théâtre. Parfois on fait venir un DJ et on a, autour de la musique, on a différentes envies. On a fait une soirée jazz, on va faire des soirées autour de la musique sud-américaine. Sous différents formats, ça peut être concert classique ou alors le bar est ouvert et le groupe joue pendant une soirée comme si vous étiez dans un lunch bar en extérieur dans les jardins du cloître.
Voilà. Alors en fait entre Uzès et Nîmes, hein, même si vous appartenez au territoire gardois, vous êtes bien situé parce qu'on peut venir d'Uzès et Nîmes à peu près dans le même kilométrage.
On est au milieu du triangle Pont du Gard, Nîmes-Uzès, mais on n'est pas très loin non plus d'Alès. Donc voilà. On a des gens qui viennent de partout, hein, beaucoup du Gard, mais des territoires autour. On a eu la chance d'avoir des très beaux articles dans des journaux. Comme
oui, c'est ça, j'allais parler de la communication,
le
c'est important.
New York
important.
Times, GQ, ouais. Etc. Ça nous a fait venir beaucoup d'étrangers, des Américains, des Anglais, des Allemands, des Suisses, des Luxembourgeois, des Belges, des
c'est
Norvégiens.
Vrai que
le
lieu est magnifique, les jardins
des Anglais, des Irlandais. On a des Australiens de plus en plus, des Néo-Zélandais, parfois des Italiens et des Espagnols qui se perdent chez nous, mais voilà.
Ça vous fait chaud au cœur, parce qu'on l'a dit au point de départ, faire revivre ce prieuré, c'est tout de même un énorme investissement. Je ne parle pas que financier, hein. Aussi humain. Hein,
oui,
c'est-à-dire
ça fait 6 ans que je ne vis que pour le prieuré, en grande partie. Ma femme et mes enfants en souffrent un peu, mais ils m'accompagnent, ils me soutiennent. Mes salariés aussi, je m'appuie beaucoup sur eux, parce que c'est un projet que je ne peux pas porter seul, comme il est lourd et compliqué, et que ce n'était pas forcément mes métiers, hein, puisque je venais du bâtiment. Je m'appuie sur des collaborateurs qui m'accompagnent et qui me soutiennent et qui adhèrent à mon projet. En gros, le lieu est tellement beau qu'ils sont fiers de faire partie de cette équipe. Mes clients le disent, que j'ai une super équipe, qui est souriante.
C'est la meilleure réclame, en fait, c'est la meilleure publicité.
On a le meilleur retour. La meilleure récompense, c'est la fidélité de nos clients, c'est l'engouement qu'on a. On a beaucoup de nouveaux clients, le bouche-à-oreille fonctionne bien. Je vous avoue que j'aimerais bien qu'il n'y ait plus la guerre dans tous les pays du monde, hein, que la France aille un peu mieux pour que nos clients puissent dépenser un peu plus, parce qu'effectivement, on fait en sorte qu'on ait des prix normaux pour qu'ils puissent venir souvent et pas qu'on les ait plumés une fois et qu'ils ne reviennent plus jamais. Voilà.
Oui.
Donc, notre but, c'est qu'ils viennent souvent, en famille, entre amis, à deux, seuls.
Bon, écoutez, voilà. Je pense que tout de même, depuis 2020, vous avez vu tout de même les progrès, vous avez vu le bouche à oreille, plus la communication fonctionner. Et puis, peut-être justement, le patrimoine. Hein, on parle tellement, il y a tellement d'émissions sur le patrimoine, que c'est tout de même absurde de ne pas encourager un lieu aussi magnifique.
On a eu Échappée Belle qui est venue nous faire quelques plans chez nous. Et c'est vrai que ce sont des belles mises en avant. La France est un pays où il y a énormément de très beaux patrimoines. Le problème, c'est qu'effectivement, il n'est pas toujours bien entretenu. Et donc, je pense que ça soit l'État, que ça soit la DRAC, que ça soit la région... et que ça soit la Fondation du patrimoine, ils ont tellement à faire qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Mais la réalité, c'est que plutôt que d'accompagner, on va dire, 150 projets en France, beaucoup, peut-être qu'ils pourraient aider un peu tout le monde.
Mais c'est pas que dans le patrimoine.
Et pas que les 3-4 projets locaux, mais bon, je comprends.
Je dirais que nous, on a un peu les mêmes problèmes avec les radios associatives. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'on mêle tout le monde ou...
Donc maintenant, j'ai résolu le problème, j'attends plus rien de personne, je suis seul aux commandes et je me débrouille tout seul. Et au moins, je ne suis jamais déçu.
Nous allons terminer cette émission qui pourrait durer des heures et des heures pour faire revivre ce prieuré Saint-Nicolas de Campagnac. Ça m'a fait sourire parce que vous m'avez dit qu'il faut préciser de Campagnac parce qu'il y a un autre prieuré Saint-Nicolas vers les Sables d'Olonne. Bon, enfin bon, c'est pas le Gard. Hein.
Je pense qu'il y a beaucoup de prieurés Saint-Nicolas. Il y a beaucoup de ponts Saint-Nicolas en France, à l'étranger. Et la réalité, c'est qu'effectivement, il y a un autre endroit culturel aux Sables d'Olonne. Qui s'appelle le prieuré Saint-Nicolas, qui fait des concerts, qui fait des expositions. Et de temps en temps, pas chaque semaine, mais chaque mois, il y a quelqu'un qui m'appelle pour réserver une place pour tel concert et qui ne comprend pas. Ou alors des gens qui ont réservé chez moi, mais qui habitent le Sable d'Olonne et qui ne comprennent pas pourquoi...
Vous refusez. Alors nous allons donc, je redis, terminer en parlant de l'aspect culturel, puisqu'en ce moment, il y a l'exposition de Marie Moroni, photographe.
C'est une très belle exposition qui... à mon avis, est essentielle pour le territoire parce qu'elle relie, ce sont des photos qui s'appellent l'exposition s'appelle Dans la gorge du dragon.
La caverne.
Dans la gorge du dragon. Et c'est l'allégorie de la caverne de Platon avec effectivement des photos du Gardon au fil des saisons, mais aussi et surtout beaucoup des cavernes et des grottes qu'elle a visitées avec des photos. C'est le Gardon comme vous l'avez jamais vu et je vous invite à venir voir l'exposition.
C'est alors, une bonne occasion pour
elle,
venir.
Elle est au prieuré Saint-Nicolas, mais vous avez un avant-goût à l'office du tourisme de Nîmes et dès la semaine prochaine au pont du Gard.
D'accord. Donc voilà, une occasion, mais vous aviez dit que vous faites tout un peu tout seul, bon, avec une équipe. Comment vous sélectionnez la musique, on en a parlé, mais comment vous sélectionnez vos expositions? Vous en faites combien à peu près par an?
Alors, je vais être très clair. On reçoit, je dirais, à peu près 400 demandes par an pour des expositions. On reçoit à peu près 400 demandes par an pour des concerts.
Vous avez le choix.
Voilà, c'est très difficile parce que il y a sans doute énormément de gens qui sont très doués et dont le travail mériterait d'être exposé chez nous ou ailleurs. Mais nous, on peut pas répondre à tout le monde. Jusqu'à présent, on faisait une ou deux expositions par an. Peut-être qu'on en fera plus. Comment on les sélectionne? Déjà, il faut que ça nous touche.
Ben
il faut
oui,
que
ça aille plaise.
Bien avec le lieu. Il faut que ça puisse correspondre à une certaine direction artistique du lieu par rapport à ce que ma femme, une amie qui nous aide à faire la direction artistique qui s'appelle Laura de Montvert et moi-même, nous sommes trois à décider. Si on est tous les trois d'accord, c'est qu'on, a priori, on ne se trompe pas. C'est pas toujours simple. On n'avait pas fait d'exposition en hiver, on en a fait l'année dernière, ça a très bien marché. On a beaucoup vendu. Le but, c'est qu'on ait une galerie. Hein. On est pas
oui, c'est une galerie, alors, c'est important.
Vous pouvez venir visiter gratuitement, c'est en entrée libre. Mais la réalité, c'est que tout est à vendre. Toutes les toiles, toutes les sculptures, toutes les photographies dans le cadre de l'exposition de Marie Moroni sont à vendre en différents formats avec des séries limitées. Et l'artiste se rémunère là-dessus, et nous aussi, parce que concrètement, je n'ai pas de subvention et je ne suis pas accompagné, je ne suis pas associatif, je suis un particulier qui a créé une société d'exploitation et qui essaye de faire revivre son lieu de plein de manières différentes. Et la culture est un des axes.
Voilà pourquoi on a intitulé cette émission « Faire revivre le prieuré Saint-Nicolas de Campagnac ».
Donc venez nous voir pour plein d'occasions différentes.
Vous
serez bien reçus.
Alors vous m'avez dit 400, quelles expositions vous avez choisi depuis plusieurs années.
On met de côté de temps en temps, quand on voit quelque chose qui nous touche beaucoup, on se pose différentes questions. Déjà, il faut que ça soit vendable à notre clientèle. Donc il faut,
bien sûr,
il faut qu'il y ait des petits, des moyens et des gros formats avec toutes sortes de prix. Il faut que ça aille bien avec le lieu.
Je pense que vous avez un cahier des charges là, au niveau de l'accrochage.
Alors il y a ça. Et comme c'est un monument historique, on ne peut pas faire d'accrochage comme on veut, donc on essaye de faire très attention. On respecte le lieu d'une manière rigoureuse. Et l'année dernière, on a eu un partenariat avec une galerie d'art, Rosa Tureschi, à Genève, qui est venue avec 7 artistes, et nous, on en avait une. Donc, il y a eu 8 artistes qui ont été exposés pendant tout l'été l'année dernière. Il y avait des sculptures dans les jardins, il y avait des photos, il y avait des toiles, il y avait un peu, voilà, c'était intéressant. Peut-être qu'on fera d'autres partenariats comme ça avec des galeries. On est ouvert à plein de choses. Pour l'instant, on essaye d'être séduit par les artistes, d'aller dans leur atelier, de comprendre leur travail, de sélectionner avec eux des choses. Et voilà, pour l'instant, on n'avait que des artistes vivants. Même s'il y en a un qui est mort pendant notre exposition l'année dernière, on essaie de trouver des artistes, soit qui ont une histoire avec le lieu, ou avec nous, ou avec la région, ou parfois on va plus loin. Là, on a un artiste qui viendra à partir de novembre. Donc l'exposition de Marie Moroni, c'est jusqu'en début novembre. Et ensuite, on a, c'est la première fois que je vais en parler, mais on a Maurice Maillard, qui est un graveur qui habitait en Normandie, donc il n'est pas de la région. Mais on a été tellement touchés par son travail... Il y a beaucoup de gravures, il y a quelques peintures, qu'on a fait une très jolie sélection et vous découvrirez, j'espère, à partir de novembre, son travail chez nous.
Merci Arnaud Lebihan pour cette énergie que vous consacrez à ce lieu, le prieuré Saint-Nicolas de Campagnac. L'exposition Marie Moroni est peut-être l'occasion de venir. Nous l'aurons aussi à notre micro, hein, parce que j'ai été très touchée, c'est vrai, par cette exposition. Et je ne sais pas comment vous définir en conclusion, mais un homme passionné, je pense.
Un
entrepreneur passionné.
Un entrepreneur passionné qui ne démérite pas. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité à présenter mon projet, le lieu, l'exposition de Marie Moroni. Vraiment...
Vos produits régionaux.
Au lieu de continuer à passer devant en vous disant un jour je m'arrêterai, je vous invite à vous arrêter. La phrase que j'entends le plus depuis 6 ans, c'est merci monsieur Lebihan, merci de me permettre de découvrir au bout de 30 ans, 50 ans, 70 ans que je passe devant ce lieu que je trouve encore plus beau de l'intérieur que de l'extérieur. On ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà.
Quand on vient de
venez, vous serez bien reçus.
On passe le pont Saint-Nicolas et très vite à droite, on rentre dans le parc. Mais allez sur le site d'abord pour bien vous renseigner s'il y a des
événements. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez vous connecter sur nos réseaux sociaux ou sur la newsletter et on essaye de vous envoyer régulièrement notre programme.
Merci à vous, Arnaud,
bientôt,
et bravo.
Avec les gens.